Salut, moi c'est Vanessa, je suis caissière à Super Rue de Vigneux et j'écoute Radio Klaxon.
Oui, salut, moi c'est Jean-Guy, je suis garde forestier à Notre-Dame-des-Landes, j'écoute Radio Klaxon.
Oui, bonjour, moi c'est Patrick, je suis de passage dans la région, au camping des Mouettes et j'écoute Radio Klaxon.
Isabelle, retraitée, j'écoute Radio Klaxon sur le 107.7, mais aussi sur le 87.5 quand ça marche moins bien.
Salut. Alors on est de retour pour un troisième épisode sur notre émission qui parle d'écologie et principalement d'écologie politique et plutôt de la disparition en fait de l'écologie politique. Alors c'est des émissions qui ont plusieurs épisodes et c'est basé sur différentes recherches que Jean-Baptiste Combi a pu mener. L'idée c'est de pouvoir aborder la question de la dépolitisation de la question climatique, donc des problèmes liés à l'environnement et au climat. Dans les épisodes précédents, on a pu aborder le rôle de l'État et en quoi il contribuait à cette dépolitisation. Et on a aussi, dans un deuxième épisode, abordé la question des médias. Deux épisodes qui seront disponibles sur Radio Klaxon et rediffusés ces prochaines semaines. Est-ce que peut-être on peut revenir sur ces deux premiers épisodes pour présenter le propos général de tes travaux et le contenu, en fait, pour pouvoir situer ce troisième épisode qui va porter sur la science, les scientifiques et les experts.
L'idée, en fait, ouais, mon travail, c'est un travail de sociologie, de sciences sociales, et qui s'est intéressé à la façon dont les enjeux climatiques sont traités politiquement, médiatiquement en France. Alors, le climat, c'est sur les 20 dernières années, probablement un des enjeux écologiques le plus médiatisé, dont on a le plus parlé, qui a le plus suscité de mobilisations diverses et variées. Et du coup, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que aussi le climat, on en a fait un problème bourgeois. C'est-à-dire que ça a été traité médiatiquement et politiquement conformément à des valeurs, des morales bourgeoises. Ce qui, du coup, là, s'est traduit par une dépolitisation, c'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui était un peu idéologique, tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à une critique du capitalisme, hop, on l'a mis de côté. C'était devenu inaudible dans tous les discours sur le climat, alors que au départ, le climat, c'est quand même quelque chose qui frontalement remet en cause les dynamiques économiques, mais aussi sociales et politiques propres au capitalisme.
C'est le climat qui remet en cause les dynamiques. J'ai pas compris.
Yes. C'est pas le climat lui-même, c'est les dérèglements des climats. Donc le fait qu'il y a beaucoup plus de gaz à effet de serre, enfin le fait que ça aille pas, voilà, le fait que le climat il se détraque dans tous les sens, du coup ça devrait amener normalement à critiquer radicalement le capitalisme. Et en fait, la plupart des discours que j'ai pu décortiquer sur le climat, ils parlent pas de capitalisme, ou alors ils parlent du capitalisme pour dire que il y a pas de problème, le capitalisme vert, la croissance verte, le développement durable, tout ça, voilà, le capitalisme pourrait prendre en charge le problème du climat, quoi, et le résoudre sans souci. Et du coup, effectivement, on a regardé, alors moi je travaille plutôt sur la France, et on a regardé du coup dans les précédentes émissions, tout d'abord comment l'État avait largement contribué à dépolitiser la question en en faisant un problème individuel. Donc c'est toute la morale éco-citoyenne qui est une morale faite par et pour les bourgeois. Morale éco-citoyenne qui est hyper dominante, soutenue par l'État avec des politiques centrées sur les individus, c'est-à-dire qui visent à modifier le comportement des individus. Ensuite, on a été voir comment les journalistes relayaient cette propagande d'État. Et les journalistes, ils relayaient cette propagande d'État, on avait expliqué par exemple en mettant l'accent sur les conséquences du problème et en ne parlant jamais des causes du problème, ou très rarement. C'est pratique, effectivement. Aujourd'hui, l'idée, c'est de voir comment les scientifiques se sont positionnés là-dedans, quel rôle ils ont eu dans cette affaire-là, dans cette affaire de dépolitisation.
Et justement, dans ton livre, tu parles des scientifiques comme étant un groupe central et jouant un rôle décisif en fait dans ce processus par rapport à l'écologie et dans la manière dont on aborde les problèmes liés à l'environnement d'une manière conformiste et individualiste, ce qui veut dire dépolitiser.
Alors pour comprendre ça, effectivement, c'est ce qu'on va essayer de expliquer aujourd'hui. en essayant de ne pas être trop aride. L'idée, c'est d'abord d'avoir en tête que la science, et donc les scientifiques, c'est un enjeu de pouvoir très fort aujourd'hui. On nous parle toujours de l'économie de la connaissance, du poids des experts. Et en fait, derrière tout ça, il y a une bataille politique, une lutte de pouvoir pour essayer de capter justement cette parole scientifique, qui est une parole qui est très forte, qui a beaucoup de légitimité, qui a un gros poids symbolique. Et du coup, déjà, se dire que la science, c'est un enjeu de pouvoir, c'est-à-dire que pouvoir arriver à obtenir le soutien de scientifiques renommés, c'est gagner du pouvoir dans la bataille pour dire qu'est-ce qui fait problème dans le climat, en quoi c'est un problème et quelles sont les solutions, quoi. Donc, il y a la science comme enjeu de pouvoir, mais il y a aussi, à l'intérieur de la science, aussi là des rapports de force. Il y a des scientifiques dominants, des scientifiques dominés, comme dans tout espace social. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que au départ, cette affaire de climat et le discours visant à problématiser le climat, à dire qu'il y a un problème avec le climat, il est au départ porté essentiellement par des scientifiques, effectivement, dès les années 70, et les choses se mettent en place dans les années 80. Fin des années 80, c'est 88 précisément, c'est la création du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat. C'est une organisation qui relève de l'ONU, qui est dans une organisation onusienne, donc internationale. Et fin des années 80, ce qui permet la création du GIEC, c'est le fait qu'en fait, les scientifiques, au niveau des États, au niveau des nations, ils n'arrivent pas à se faire entendre. Donc ils vont contourner les États, ils vont aller chercher de l'aide, c'est-à-dire de l'argent, une reconnaissance, au niveau directement international, en disant en fait c'est un problème qui concerne la planète. Donc dès le départ, le climat s'est cadré comme un problème global. C'est un problème qui concerne l'ensemble de la planète et qui en plus concerne des échelles de temps lointaines. C'est-à-dire les problèmes vont se manifester dans plutôt 50, 100 ans plutôt que dans 5, 10 ans, quoi. Donc déjà, dès le départ, il y a une imposition de comment penser le climat comme un problème global, ce qui du coup va passer sous silence toute la question des problématiques plus régionales, plus locales. Or, il y avait des scientifiques qui disaient, oui, ok, c'est un problème global, mais c'est d'abord, les conséquences, elles vont d'abord se traduire, se manifester localement.
Tu parles d'une coopération, qui rend invisible, en fait, par cet échelon global, les inégalités géographiques et sociales, donc la manière différenciée dont on subit les conséquences climatiques.
Voilà, donc ça c'est une première finalement contribution des scientifiques des climats à la dépolitisation, c'est que la façon dont ils ont été amenés à s'organiser à la fin des années 80, puis ensuite dans les années 90, comme ils se mobilisent au niveau international, du coup, les scientifiques qui sont valorisés, c'est les scientifiques qui travaillent sur le climat global, sur une vision globale du climat. Du coup, tous les scientifiques qui travaillent sur des variabilités du climat aux échelles plus régionales, déjà, ils ont beaucoup moins de budget, etc. Et du coup, effectivement, la conséquence politique, c'est qu'on va avoir beaucoup moins d'éléments scientifiques pour dire, ouais, mais il y a des inégalités aussi selon les territoires. Et selon les échelles de temps, ce ne sera pas les mêmes problèmes pour les mêmes personnes, quoi.
Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu as l'impression que c'est une volonté? Que c'est parce que moi, de ce que je connais du GIEC, c'est aussi des gens qui font finalement quelque part presque un travail de vulgarisation à des moments, parce qu'ils condensent plein de travaux qu'il faudrait sinon aller chercher, lire, etc. Puis ils font un bilan annuel. Et pour moi, par exemple, personnellement, je trouve ça assez pratique. Mais du coup, je me demande, est-ce que comme ils ont la tête fourrée là-dedans et que ça passe plein de temps, est-ce qu'ils peuvent se rendre compte? Est-ce que c'est une volonté politique d'appréhender les choses, pas de façon politique, mais de les appréhender de façon globale?
Alors, c'est pas forcément intentionnel. Ils font un peu ce qu'ils peuvent d'une certaine façon. En fait, le GIEC, c'est aussi, ça se présente comme quelque chose d'assez neutre. Objectif neutre, d'objectif et d'indépendant, mais en fait, c'est aussi soumis à des jeux politiques, à des influences politiques, si bien que le GIEC, pour continuer à exister, il doit quand même coopérer avec les décideurs politiques. Donc oui, ce qu'ils produisent, c'est important et utile, mais contrairement à ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils veulent être scientifiquement irréprochables, mais ne pas être politiquement prescripteurs. Bon. Sauf que malgré eux, c'est des logiques de système, de structure qui font ça, c'est que malgré eux, ils vont contribuer déjà au départ à mettre en avant une vision du climat qui est peu propice à une politisation qui montrerait que voilà, il y a des inégalités à la fois en termes de conséquences ou de contributions au problème. Quoi.
Ça rejoint le même genre de contraintes qu'on a vu avec les médias où pour être publié ou pour avoir un écho plus large, ça implique de se plier à des contraintes ouais, qui atténuent en fait la force du propos qui est porté.
Ouais, ouais. Et du coup, là où on pourrait attendre des scientifiques du climat qu'ils se mobilisent pour dire mais là il faut sortir du capitalisme, il faut dépasser les logiques du néolibéralisme, de la finance, de l'industrie. En fait, les scientifiques du climat ne vont pas dire ça, ne vont pas du tout tenir ce discours-là. Alors peut-être pour être plus concret, on va revenir sur le cas de la France, voir comment ça s'est passé en France. Comme ça, on aura des exemples un peu plus précis. En France, du coup, les climatologues, les sciences du climat vont participer au traitement politique et médiatique de cette question à partir du début des années 2000, parce qu'ils se sentent suffisamment solides, confiants dans leurs travaux, dans leurs résultats, pour dire « Ok, maintenant, il y a une urgence climatique », et surtout dire « nos doutes ne font pas le poids face à nos certitudes ». Donc imposer l'idée d'un consensus très fort de la communauté, avec beaucoup de guillemets, scientifique, sur la question climatique. Parce qu'ils vont directement adhérer à la croyance dans le fait qu'il faut sensibiliser le plus grand nombre. Ça, on avait vu dans les deux précédentes émissions, tout ce qu'il y avait de pervers dans cette injonction à sensibiliser le plus grand nombre, parce que c'est l'idée qu'on pourrait changer les comportements en changeant les idées, en changeant les représentations. Or, les comportements, ce n'est voilà, c'est pas qu'une histoire de changement culturel et de conscience, c'est bien plus complexe. Et du coup, pour revenir sur le point de départ de tes questions, Jonas, en quoi ils ont joué un rôle clé, c'est que à partir du moment où les scientifiques du climat, qui en plus participent au GIEC, donc qui ont une renommée internationale, à partir du moment où ils disent qu'il y a une urgence, ça va pouvoir enclencher, enfin ça va accélérer, permettre d'accélérer la prise en charge politique et médiatique de cette question. C'est-à-dire que les journalistes vont pouvoir dire à leur rédacteur en chef, à leur confrère, bon ben là ça y est, on a des scientifiques qui nous disent qu'il n'y a plus de doute, quoi. Donc on peut y aller, il faut mettre le paquet. Pareil au niveau de l'État, le ministère de l'Environnement va pouvoir dire, bon alors regardez, on a les scientifiques les plus importants du monde entier, et notamment français, qui sont là pour venir travailler avec nous, pour nous dire quoi faire. Et du coup, tout ce petit monde-là, en fait, qu'il faut avoir en tête, c'est que les scientifiques des climats qui ont des positions dominantes, c'est aussi des dominants en général dans la société. C'est-à-dire que c'est aussi des gens qui occupent des positions sociales très privilégiées et qui ne sont pas du tout enclins à des modes de pensée radicalement critiques, qui penseraient la transformation profonde, la transformation sociale et écologique profonde des sociétés. Ils ne sont pas du tout là-dedans, quoi. C'est des gens qui sont très conformistes, très légitimistes. C'est-à-dire que si le Premier ministre veut faire ça, on va obéir, on va le faire parce que c'est le Premier ministre. Si TF1 veut qu'on parle de ça, on va le faire. Et du coup, ils vont en fait participer au jeu de la dépolitisation parce que ils peuvent pas faire autrement, parce que ça leur paraît bien, en fait, tout simplement. Ils pensent que c'est bien. Ils disent les journalistes font du bon boulot, les hauts fonctionnaires font du bon boulot et on va travailler avec eux.
Ils font ce qu'ils peuvent.
Et est-ce qu'il y a aussi, tu parlais de leur position privilégiée, est-ce qu'il y a aussi la question des privilèges qu'on ne peut pas remettre en question, la position que tu occupes t'amène à des bénéfices et des privilèges, et tu auras forcément tendance, consciemment ou inconsciemment, à ne pas être en contact ou adhérer à ce qui pourrait remettre en question les privilèges et les acquis que tu as.
Oui, il y a ces logiques-là qui rentrent en compte, clairement. Mais il y a aussi leurs habitudes politiques, ce qu'ils sont politiquement. C'est-à-dire que les scientifiques dominants, ce n'est pas des gens qui votent à gauche de la gauche, c'est des gens qui sont plutôt, on va dire, PS, voire républicains, quoi. Dans les climatologues dominants en France, il y en a un qui se démarque un petit peu, c'est Jean Jouzel, qui va être sensible à des luttes radicales, mais même si timidement. Mais bon, c'est des gens qui sont plutôt enrôlés par les lobbies, qui sont enrôlés par les lobbies de patrons, par les lobbies industriels. Et ils ont du mal à dire non, ils vont coopérer avec ça. Par contre, ils vont beaucoup moins coopérer avec le mouvement écologiste, avec les organisations écolo, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, même si elles ne sont pas toujours très, très, très offensives. Voilà, ça, c'est moins prestigieux pour eux, quoi, ça. Ils se sentent une responsabilité d'agir avec les puissants, quoi. Donc, Du coup, tout le crédit qu'ils apportent, ils portent en eux à travers les recherches qu'ils ont faites, sur lesquelles on reviendra peut-être, ben ils vont l'apporter, le distribuer de façon très asymétrique, très inégale en fait, dans l'ensemble des personnes qui sont concernées par les enjeux écologiques, quoi. Et ils vont appuyer ceux qui ont intérêt à la conservation de l'ordre établi, quoi.
Et on parlait aussi des experts. Est-ce qu'on peut rapidement faire la différence entre les scientifiques et les experts, et les rôles qui remplissent
Ouais. Alors le scientifique, il produit de la connaissance. Il produit une forme de connaissance qui est d'ailleurs elle-même contestable, qui repose aussi sur des a priori politiques ou des présupposés socialement, historiquement situés, très cartésiens. Voilà, c'est vraiment des modes de pensée qui sont caractéristiques des sociétés occidentales. Bon. Donc déjà, ça peut se discuter. Les scientifiques, ils vont aussi produire des connaissances en mettant en avant un côté sophistiqué. Alors que la science, en fait, c'est du bricolage, quoi. Mais ça, on essaye de jamais trop le montrer. Mais la science, ce n'est que du bricolage. Et ce ne sont que des vérités provisoires. C'est jamais des vérités absolues. Sauf qu'il y a souvent un glissement où on présente le discours scientifique comme un discours de vérité absolue. Donc, déjà, il faut absolument désacraliser la science, tout en ayant conscience que la science obéit quand même à des règles dont on peut discuter, et qu'elle produit un savoir, elle produit une connaissance qui, quand même, a une certaine rigueur, ce qui ne veut pas dire qu'elle est universelle. Bon.
Il reste un savoir situé.
Il reste un savoir toujours situé. Bon. L'expert, lui, il ne produit pas de connaissance. L'expert, il traduit la connaissance. C'est un passeur. Il fait de l'import-export. Il va importer des connaissances, il va les reformuler, il va les exporter dans les médias, dans des conférences, dans des livres de vulgarisation, etc. Donc c'est un rôle qui, de ce point de vue-là, peut être utile. Sauf que souvent, quand on dit traduction, dans la traduction, il y a souvent aussi un peu de trahison, bon, ou il y a un peu de déformation. Et puis quand on traduit, on sélectionne, les mots ne sont pas neutres. Bon, voilà. Donc l'expert aussi, il faut avoir en tête que c'est pas une courroie de transmission parfaitement lisse. Mais l'expert, il ne produit pas de connaissances. Alors souvent, il y a une ambivalence, il faut être clair là-dessus. Et il se trouve qu'en France, les scientifiques, ils ont souvent eu aussi un rôle d'expert. C'est-à-dire que les mêmes personnes, c'était des hommes doubles. C'est-à-dire qu'ils étaient scientifiques, et puis par moments, ils allaient participer à des conférences, ils écrivaient des livres même de vulgarisation, ils en écrivent beaucoup, ils participaient à des émissions de télé, ils participaient à des réunions ministérielles, à des réflexions en haut lieu, etc. Et dans ce cas-là, ils sont scientifiques, mais aussi experts, quoi. Ils sont davantage experts que scientifiques. Bon, du coup, ça peut poser des questions. Il reste qu'ils ont toujours... leur leitmotiv en France, ça a été de se mobiliser pour imposer un consensus scientifique, parce qu'à partir du moment où il y avait l'idée de faire du problème du climat un problème individuel, il fallait que les gens soient persuadés qu'il y avait une urgence, et à partir du moment où il n'y avait plus de consensus, les gens pouvaient se dire « Ah ben on n'est pas sûr, on ne sait pas trop, donc on ne va pas changer de comportement ». C'était les modes de raisonnement, et c'est toujours d'ailleurs un peu les modes de raisonnement dominants sur le climat.
Oui, justement, tu parles de la croyance dans la communication, dans la capacité ou l'idée que les médias seraient un instrument efficace en fait d'éducation du plus grand nombre, qui engendre en fait cette subordination aux contraintes qui pèsent sur les médias. Tu parles d'une croyance dans le fait que les médias seraient un instrument efficace d'éducation.
C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on a montré expliqué dans les deux premières émissions, c'est qu'il y avait, pour comprendre le traitement médiatique et politique du climat, tout ça repose sur une croyance dans les bienfaits des médias pour modifier les manières de penser et d'agir des personnes. C'est-à-dire que les médias auraient des effets forts. Bon. En fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est une croyance qui est justement très néolibérale, même si on la retrouve dans beaucoup de milieux militants. Il y a beaucoup de critiques des médias qui reposent sur ce présupposé faux qui consiste à dire les médias nous manipulent, nous bourrent le crâne, etc. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Raisonner comme ça, c'est dire, ça veut dire du coup on peut changer les comportements en changeant les mentalités. Alors pour changer les comportements, il faut changer les structures, il faut changer les conditions dans lesquelles les gens vivent. Il faut changer le rapport au temps, il faut changer le rapport au déplacement, au transport, le rapport à l'argent, enfin c'est ça qu'il faut changer. Donc ça, c'est pas dans les discours, c'est pas dans les têtes, ça se passe dans comment on organise la société. Et donc c'est ça politiser aussi. Et du coup, effectivement, c'est plus clair. Du coup, les scientifiques, comment ils participent à cette dépolitisation, c'est-à-dire à cette croyance dans le pouvoir des médias, médiacratiques? parce que effectivement, les scientifiques eux-mêmes, ils ont un rapport enchanté à l'éducation, à la pédagogie.
Enchanté,
c'est-à-dire ils ont réussi. Et pour eux, c'est enchanté, c'est voilà, c'est ça réussit, ça marche, c'est un rapport très euphorique à ça, quoi.
Quand on veut, on peut.
Quand on veut, on peut, cette idée-là aussi. Et si on informe bien, si on éduque bien les gens, et bien ils feront les bons choix, quoi. Et pourquoi ils ont ce rapport-là à l'éducation ? Parce que ça a marché sur eux. C'est-à-dire qu'eux, ils ont réussi à l'école. C'était des premiers de la classe, la plupart. Ils ont fait de longues études. C'est des gens qui s'épanouissent dans la réflexion, dans la lecture et dans l'écriture. Et donc, du coup, ça les dispose, ça les incline à croire dans les effets des médias, de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation pour résoudre le problème. Du coup, ils vont se jeter corps et âme pour coopérer avec les journalistes, avec l'État pour produire un maximum de discours. Et finalement, d'ailleurs, c'est ça qui est surprenant, pas tant expliquer le problème, parce que ça, le problème a été assez bien expliqué en tout cas. D'un point de vue scientifique, c'est-à-dire l'effet de serre artificiel, avec, vous vous rappelez peut-être, les images où on voit la Terre sous une cloche, et du coup on voit que ça réchauffe. Enfin, voilà. Donc il y a eu un travail assez efficace de mise en mots, en images, en forme du problème. Donc là-dessus, on ne leur demandait pas tant d'expliquer les causes scientifiques ou les mécanismes scientifiques. Par contre, ils étaient là pour dire « il y a urgence », pour sonner la sonnette d'alarme, quoi. Et du coup, en fait, ils ont parfaitement consolidé, alimenté et du coup accrédité à la fois les discours et l'idée qu'on pouvait résoudre le problème par les discours, quoi. Et du coup, ils n'ont pas vraiment réfléchi au fait que il fallait peut-être aussi se rappeler que derrière le climat, il y a des enjeux idéologiques. Enfin, derrière le problème du climat, il y a des enjeux idéologiques. Parce que c'est des gens, pour eux, ils sont complètement imbibés de l'idéologie dominante selon laquelle la lutte des classes s'est dépassée, le capitalisme est l'horizon indépassable de nos sociétés. Enfin, ils sont là-dedans. Donc, ils vont plutôt se démener pour essayer de trouver des solutions d'ordre réformiste, c'est-à-dire aussi conformiste, légitimiste, qui ne remettent pas en cause structurellement l'ordre établi.
Et tu parlais d'une coopération en fait entre les médias, les scientifiques et l'État, et l'exemple des climato-sceptiques semble montrer bien la capacité de cette coopération à étouffer en fait toute critique, qu'elle soit la nôtre ou celle, une critique qu'on condamne. On voit en fait une sorte de retour de bâton qui montre pas mal la force en fait de ce discours dominant.
Ouais, c'est-à-dire que comme il y avait ce souci, ça virait à l'obsession, enfin, je raconterai une anecdote dans un instant, mais de surtout pas de voix dissonantes. Et en particulier dans ces voix dissonantes, c'est-à-dire des voix qui dissonneraient de l'idée d'un consensus du GIEC, en fait. Ouais, des gens pas d'accord. Et parmi les gens pas d'accord, les plus menaçants, et là je pense que on peut être d'accord, c'était les climato-sceptiques, c'est-à-dire des scientifiques, des ingénieurs, des intellectuels qui disent il n'y a pas de problème climatique, il n'y a pas de changement climatique lié à l'activité humaine.
C'est des sortes de négationnistes
du climat. Ouais. Ouais, des négationnistes du climat. Mais d'ailleurs, ils ont été qualifiés comme ça, quoi. Bon, c'est une façon de les disqualifier. Bon. Donc en France, c'était Claude Allègre, le plus connu, son lieutenant Vincent Courtillot, il y avait un philosophe, qui s'appelle Lévi Leblon, il y avait un mathématicien, Benoît Rito, quelques géographes. Bon, voilà. Des personnes d'ailleurs assez isolées, peu menaçantes, parce que peu structurées, peu organisées, alors qu'aux États-Unis, on a vu comment les lobbies climato-sceptiques, depuis le milieu des années 90, sont hyper puissants, et voilà. Bon. En France, non, il n'y avait rien à voir avec tout ça. Ceux qui étaient puissants, c'était les climatologues du GIEC légitimes, quoi. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé amusant en regardant, parce que ça les occupait beaucoup et c'était important dans tout mon travail, j'observais beaucoup ça, c'est comment ils étaient obsédés par l'éventualité d'une présence importante des climato-sceptiques dans les médias. Or, moi, j'arrêtais pas de leur montrer que mes chiffres, ce que j'observais avec mes stats, c'est que les climato-sceptiques, on les voyait jamais, quoi, ou très peu. Et on les voyait dans des émissions, dans des pages de journaux qui sont lues que par quelques fractions cultivées de la population, mais c'était minime, quoi. Mais eux, ils étaient obsédés par ça. Il y a eu une période où on a vu un peu plus les climato-sceptiques, c'était entre l'été 2009 et l'été 2010. Et là, je me rappelle d'un dimanche soir où on m'appelle. On me dit, oui, Jean-Baptiste, c'est la panique. On est en train de perdre la bataille de l'opinion. T'as vu, il y a des climato-sceptiques partout. Ils ont fait encore un papier dans Le Monde. Ils sortent des livres, etc. Bon. Moi, je leur dis, écoutez, je pense qu'ils sont peut-être un peu plus présents, mais ils sont nettement moins présents que vous. Et puis, ça ne va pas durer longtemps. Effectivement, ça a duré un an. Et du coup, il y avait une mobilisation À chaque fois, en fait, c'est aussi une raison pour laquelle on a peu vu les climato-sceptiques, et tant mieux, hein, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus conservateur, de plus ultra-libéral, etc. Une des raisons pour lesquelles on les a peu vus, c'est parce que justement, les climatologues se mobilisaient. C'est-à-dire, dès qu'il y avait un climato-sceptique qui commençait à être un peu visible, ils faisaient des pétitions avec des centaines de signatures de scientifiques français qu'ils envoyaient à l'Académie des sciences, qu'ils envoyaient au ministère. Les journalistes, ils se mobilisaient avec les journalistes aussi pour faire des émissions, disons, ils disent n'importe quoi, etc. Donc, ça rendait visible les liens très étroits qu'il y avait entre les journalistes dominants, les décideurs politiques dominants et les scientifiques dominants, quoi. Ça permettait de voir que deux choses. De voir d'une part qu'ils étaient très liés, qu'ils se connaissaient bien et qu'ils étaient dans un même combat, dans une même croisade pour maintenir et ne pas fragiliser l'idée d'un consensus scientifique. Et d'autre part, la deuxième chose, c'est que ça leur permettait de se faire passer pour les gentils. C'est-à-dire que, regardez, nous, les gentils, on met des digues, des barrières contre les méchants climato-sceptiques. Du coup, ils se faisaient...
Heureusement qu'on est là.
Les progressistes, c'est nous. Les humanistes, c'est nous. Les méchants, les conservateurs, etc., c'est eux. Du coup, ça leur permettait de faire oublier que tout leur travail, en fait, c'était aussi un travail de maintien de l'ordre établi. Et donc, un maintien des logiques qui détruisent la planète, quoi.
Et une manière aussi d'éviter de parler des soutiens des lobbies industriels à leur politique, d'éviter de cacher leur rhétorique réactionnaire ou les accords et les compromis en fait qui sont faits avec que ça soit avec l'État ou les politiques.
Ouais. C'est-à-dire que en fait souvent quand on fait une critique de la science, on met l'accent sur le fait que les certains scientifiques, certains experts sont entre guillemets vendus au lobby et participent d'un travail de fabrique du doute, pour reprendre une expression qu'on emploie beaucoup sur cette question-là. On va fabriquer du doute, on va fabriquer de la controverse artificiellement pour éviter que les décisions soient prises, histoire de préserver les intérêts industriels ou des lobbies.
T'as des exemples?
C'est très, très présent aux États-Unis, mais il y a eu toutes les questions sur les perturbateurs endocriniens, sur le tabac, sur tout un tas de problèmes de santé publique. On le voit beaucoup sur les questions de santé publique, ou au niveau de. Alors ça se passe essentiellement au niveau de la Commission européenne, où les experts et des scientifiques, main dans la main avec les lobbies, vont produire des rapports pour essayer de contester les connaissances scientifiques qui entraînent des directives européennes qui posent des limites aux activités industrielles. Donc ça va être des taux de pollution, ça va être des taux de pesticides dans certains aliments, ça va être ce genre de choses, quoi. Alors après c'est en rentrant dans des choses un peu techniques, mais ça a été beaucoup montré sur les lobbies du tabac aux États-Unis, mais aussi les lobbies climato-sceptiques du climat aux États-Unis. On voit vraiment ce truc-là opérer, quoi. Donc il faut repenser toujours avoir en tête, quoi, le discours scientifique, l'expertise scientifique dite scientifique, c'est un enjeu de pouvoir, quoi, et qu'elle peut être toujours contestée. Donc fabriquer du doute, fabriquer de la controverse, c'est un moyen de retarder des réglementations contraignantes. Bon. Mais moi, ce que j'essaye de montrer aussi dans le livre, c'est qu'en France, finalement, on peut aussi voir les choses autrement et s'apercevoir que fabriquer du consensus, ça peut aussi participer d'un processus de dépolitisation, de conservation du capitalisme, en fait, quoi. Et que c'est une autre façon d'agir, mais qui est plus peut-être pernicieuse parce que ces gens-là donnent quand même l'image de personnes qui se battent pour la bonne cause. Et effectivement, ils se battent, on ne va pas dire qu'ils se battent pour une mauvaise chose, mais la façon dont ils se battent repose sur des choses qui ne sont pas pensées, des impensées et des logiques qu'ils ne remettent pas suffisamment en question et qui les amènent à finalement participer à l'émergence aussi de tous les discours sur le capitalisme vert, sur on va résoudre le problème par la technique. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le GIEC est quand même complètement noyauté, cadenassé par la géo-ingénierie, c'est-à-dire la géo-ingénierie, c'est toute l'idée qu'on va faire des champs entiers de panneaux solaires, qu'on va capter le carbone, les émissions de gaz à effet de serre dans le fond des océans, dans des solutions produite par des ingénieurs, c'est ça la géo-ingénierie, solution technologique en fait. Il y a l'idée qu'on va résoudre le problème en transformant les individus, sans transformer la société, sans transformer les logiques sociales, en transformant le marché, Donc c'est par des outils de marché, donc c'est la taxe carbone, enfin les bourses de quotas, etc. Et par la technologie. Et sur la question de la technologie, bah, ceux qui mettent en place la technologie, c'est des gens qui font de la recherche et développement, donc c'est des gens qui sont très proches, qui sont dans les mêmes cercles que les scientifiques du climat, quoi. Et du coup, ça permet de dire non, mais l'idée qu'il faut sortir du capitalisme, pas la peine. Regardez, il y a des solutions, quoi. Voilà.
J'essaye de résumer, si je comprends bien, en gros, ça enlève de la critique, ça empêche de faire de la critique, parce que si je dis « Ah, mais il y a un problème, il y a de la pollution, ça fait faire des guerres, il y a de la pollution avec les véhicules, ça fait faire des guerres au Moyen-Orient pour obtenir du pétrole, ça, machin, etc. » Plutôt que de remettre en cause toute la logique, on va dire « Ah, mais on a des solutions, on va faire des bus qui roulent au gaz du méthane, par exemple, et puis ça sera un nouveau bus plus bio, plus machin. » Du coup, comme ils ont un temps d'avance, parce que moi, par exemple, qui connais rien, je connais pas plus, je me dis le méthane, c'est plus bio que le pétrole, ça remet pas en question le nombre de véhicules qu'on a, ni quoi que ce soit, ça fait juste, hop, ça m'a coupé l'herbe sous le pied, et je me dis « Oh, qu'est-ce qu'on est progressiste !»
C'est ça. Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le discours scientifique, c'est un discours d'autorité, et qui se fait passer pour incontestable, et qui du coup va toujours nier le fait que quand même, il est orienté politiquement. Et on voit comment, par rapport à ce que tu dis, c'est un bon exemple, quoi. On voit comment c'est orienté politiquement. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pensables, en fait.
Il ne faut pas freiner l'industrie de l'automobile.
Voilà, ouais. Et donc, en fait, il faut peut-être, pour se prémunir, ou comment se défendre, parce que je crois que c'est un peu ça que tu voulais aussi aborder,
oui,
Jonas.
Oui, oui, comme dans les autres épisodes, en fait, par rapport à l'acteur qui était abordé, c'est comment on peut se défendre. On a vu ce qu'on pouvait essayer de faire face à l'État, face aux médias, et comment on peut se défendre face à la science et à son autorité. T'expliquais que toutes les productions et les activités scientifiques sont orientées par des enjeux politiques et sociaux, qu'il y a une idéologie derrière, ce qui va à l'encontre de sciences neutres, factuelles, voire naturelles. Et pourtant, elle possède une autorité qui est incomparable. Enfin, c'est un outil très, très puissant et qui est principalement au service des personnes qui ont déjà ce pouvoir. Donc la question, c'est un peu comment on peut s'en protéger pour pas qu'elle nous impose ses évidences.
Je dirais qu'il faut commencer par, toujours, je le répète parce que c'est vraiment important, garder en tête qu'il n'y a pas de discours neutre, il n'y a rien de neutre, les idées pures n'existent pas. Donc le discours scientifique, c'est un discours aussi politique. Donc déjà, c'est essayer de se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a de politique là-dedans. C'est-à-dire que déjà quand le scientifique ou l'expert vous dit que lui il est neutre, indépendant, objectif, bon déjà vous pouvez vous dire qu'a priori il est du mauvais côté, quoi. Bon, déjà un scientifique qui va vous dire voilà, moi ce que je te dis, ça, enfin qui réfléchit, qui pense et qui assume les conséquences politiques de ses recherches telles qu'elles soient, que ce soit en, je sais pas, en biologie, en chimie, en géographie, en sciences sociales, etc., en histoire, bon voilà, c'est situé politiquement, historiquement, socialement. Et du coup, comment se défendre? Je pense que à partir du moment où on rentre trop rapidement dans des explications techniques sans avoir présenté les implications politiques, ben je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le discours. Il ne faut même pas chercher à discuter, parce que d'une part, si t'es pas aussi spécialiste, on te dira que t'as tort. Et d'autre part, on peut discuter science, technique, connaissance, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur le présupposé politique, ou au moins on est au fait du présupposé politique. Et pour reprendre l'exemple, par exemple, de la voiture, des différentes évolutions technologiques des voitures, le présupposé politique, c'est la voiture doit toujours être dominante, quoi. Donc déjà, commençons par discuter de ça. Parce que derrière, il y a un business, quoi. Donc, peut-être, essayer de voir en quoi aussi le discours scientifique est susceptible d'être mobilisé ou pas pour un discours, un peu révolutionnaire, quoi. C'est-à-dire un discours qui assume une transformation radicale parce que nécessaire, et nécessaire plutôt, de l'ordre social, quoi. Si ce discours, et ça on le voit très vite, si ce discours il s'inscrit dans le cadre déjà établi, on peut s'amuser à discuter avec, mais à ce moment-là, on le subit, quoi. Tandis que si le discours, par exemple, scientifique dit, mais pour que prendre au sérieux mes résultats scientifiques, il faut repenser l'ordre social, repenser l'organisation de la cité, de la vie collective, des sociétés. Alors peut-être qu'il perd son boulot, c'est pas sûr encore, enfin ça dépend où, ça dépend quoi. En tout cas...
On ne rencontre pas souvent, déjà des scientifiques ou experts qui assument leur point de vue situé et qui l'assument ouvertement sans revendiquer cette neutralité et surtout qui vont... jusqu'à affirmer politiquement l'implication de leur recherche.
Bah, le discours de la neutralité, c'est le discours des dominants. C'est-à-dire que quand on est dominant, évidemment, on a plutôt intérêt à dire qu'on est neutre, qu'on détient la vérité, que ça ne peut pas être autrement. Donc, ensuite, peut-être un petit mot aussi sur l'expertise. On a beaucoup parlé des scientifiques, mais sur les experts, j'ai dit un peu ce que c'était, sans dire trop comment ils étaient intervenus dans cette affaire-là. C'est-à-dire que les experts, ce qu'ils vont faire aussi, c'est à partir de constats scientifiques qu'ils vont se réapproprier, qu'ils vont traduire à leur façon, qui n'est pas neutre, donc, eh bien, ils vont proposer aussi des outils pour mesurer, apprécier les choses. Là, je pense par exemple à un expert qui a joué un rôle très important, il s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur des mines, donc une des plus principales écoles d'ingénieurs, corps d'ingénieurs français, qui a beaucoup qui a un réseau, un capital social, des connaissances, ça veut dire des connaissances dans les milieux de pouvoir très importants. Et ce Jean-Marc Jancovici, soit dit en passant, nucléariste notoire, c'est-à-dire qui défend quand même le nucléaire et qui est pro-nucléaire. Mais bon, la question du nucléaire et du climat, c'est une question compliquée, parce qu'on va vous dire que le nucléaire, c'est une énergie qui émet peu de gaz à effet de serre, donc c'est bien pour le climat. Et lui, d'une certaine façon, Jancovici, il participe un peu de ce discours-là. Mais du coup, il va, lui, mettre en place un truc qu'il a appelé le coach carbone. Et le... c'est le coach carbone, il y a un autre dispositif qui m'échappe, mais en gros, qui permet... à tout à chacun, mais il a commencé par les entreprises, les administrations, enfin par les, voilà, les permettant de mesurer les émissions de gaz à effet de serre, voilà, d'un bureau de poste, d'une mairie, d'une usine, d'un atelier de production, de tout ce que vous voulez. Voilà. Et du coup, l'idée c'était, on va vous dire combien vous émettez de gaz à effet de serre, comme ça vous pourrez prendre les mesures pour les réduire. Et donc là, on est parfaitement dans la logique de la sensibilisation. Dans l'idée, c'est chacun doit changer à sa petite échelle, et on va vous équiper pour changer individuellement, localement, individuellement l'individu, mais ou l'entreprise ou le bureau de poste, quoi. Mais ce qui évite d'avoir un changement global, avec l'idée que la somme des changements localisés, individualisés, entraînerait un changement global. Sauf que c'est pas exactement comme ça aussi que ça fonctionne, quoi. C'est que plutôt un changement global va rendre possible de profonds changements individuels, quoi. Sinon, les changements individuels, ils restent à la surface ou ils restent très vite en contradiction avec les structures qui, elles, continuent à porter des injonctions et des modes de vie et de faire qui sont néfastes qui détruisent la planète, quoi. Et donc, pour revenir à ce Jancovici, il a poursuivi son petit travail en faisant, donc, là pour le coup, ça s'appelait vraiment le coach carbone, et il essayait d'évaluer tous les mois les émissions de gaz à effet de serre des Français. Et du coup, tous les mois, il était sur le JT de TF1, sur le plateau du journal du soir de TF1 avec Laurence Ferrari, et disait, ben voilà, ce mois-ci, les Français ont émis plus de gaz à effet de serre. Ah, c'était l'hiver, c'est normal, il fallait se chauffer, etc. Et donc, ça permettait de relayer, juste en 2012, toujours cette morale éco-citoyenne du petit geste parfait éco-citoyen qui va sauver le monde, quoi. Et du coup, voilà aussi comment les experts, avec l'appui des scientifiques, vont participer à faire du problème climatique un problème individuel, non pas un problème politique, collectif, structurel.
Moi, j'ai une question. Alors, on a vu comment essayer de se défendre face à la science, déjà ne pas faire confiance à toute personne qui revendique cette neutralité. Et est-ce qu'on peut s'en saisir? Est-ce que c'est quelque chose, un outil qu'on peut mobiliser, on peut s'en défendre, mais est-ce qu'on peut attaquer avec? Et je crois que ça va nous guider, ou c'est plutôt une thématique qu'on va plus aborder dans la prochaine émission, c'est la question de la contre-expertise. Mais je vais quand même te la poser. Est-ce qu'on peut saisir de cette science en fonction de nos finalités?
Alors avant de répondre à cette question-là, un point aussi que je voulais mentionner, c'est que j'ai beaucoup parlé des climatologues, des sciences des climats, donc des spécialistes de l'océan, de l'atmosphère, de géographie, de la géologie, etc. Mais il y a aussi les sciences sociales dans cette affaire. Parce que faire du problème climatique un problème politique supposerait de mobiliser aussi les sciences sociales. Pour dire, ok, il faut, parce que c'est, je crois qu'on l'avait évoqué lors de la première émission, quoi. Le discours dominant aujourd'hui au niveau international, c'est de dire il faut transformer les sociétés, mais sans transformation sociale. Donc ça, je l'avais expliqué, je ne reviens pas là-dessus. Mais si on veut transformer les sociétés, on peut se dire peut-être qu'il faut faire appel aussi à des gens qui étudient le fonctionnement des sociétés, des historiens, des sociologues, etc. Alors ils l'ont fait un petit peu. Et ce qui est amusant, c'est de voir quel type de chercheurs en sciences humaines et sociales ils vont mobiliser. Évidemment, des gens qui vont mobiliser, enfin, des chercheurs en sciences sociales très peu critiques, des sociologues d'État ou des historiens d'État, quoi, organiques, c'est-à-dire qui vont, et qui, du coup, vont produire des données qui, d'ailleurs, sont rarement diffusées, publiées dans les revues de sciences sociales importantes, rigoureuses, mais qui, comme ils ont quand même des doctorats et des postes à l'université, leur permettent aussi, il y en a pas mal, hein, des chercheurs, j'en ai pas mal, des collègues comme ça, qui, finalement, participent à dépolitiser, en fait, en disant, mais oui, le changement social peut se faire par les institutions, par les politiques publiques, voilà, de façon, par la réforme, quoi. Hein, du coup, ça fait le lien avec ta question, parce que le réformisme, c'est pour moi aujourd'hui ce qui ramollit le plus le mouvement écologiste. C'est-à-dire que c'est la philosophie dominante dans le mouvement écologiste, il me semble, et on en parlera lors de la prochaine émission sur les transformations du mouvement écologiste depuis une dizaine d'années. Parce qu'il y a aussi, il y a deux choses, peut-être juste pour faire un teaser, il y a à la fois une montée en puissance de la philosophie réformiste, c'est-à-dire changement de l'intérieur, on expliquera ça un peu plus la prochaine fois. Mais du coup, il y a quand même aussi une montée en puissance dans le mouvement écologiste. On voit revenir une écologie politique, politique non pas au sens des partis politiques, mais au sens de l'idéologie, une écologie qui prend à bras le corps le vrai problème climatique, c'est-à-dire le problème du capitalisme. Et donc, juste pour, effectivement, le mouvement écologiste, il compte. Et historiquement, il s'appuie aussi sur beaucoup d'associations qui sont devenues des producteurs d'expertise. Ça s'explique parce que le ministère de l'Environnement a toujours été un ministère faible, dominé, avec peu de moyens. Et du coup, pour faire son travail, il a annexé des associations environnementales à coup de subventions, qui sont devenues en fait des administrations parapubliques, des auxiliaires de l'action publique du gouvernement en matière environnementale. Donc voilà.
Moi, j'aurais bien voulu revenir sur une dernière chose avant de conclure. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais je crois que c'est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe directement dans nos milieux, dans nos luttes et dans nos mouvements. C'est les dangers du jeu médiatique, parce que t'en parles aussi par rapport aux scientifiques, et c'est la question, la croyance qu'on peut sensibiliser à certains problèmes par le biais des médias, qu'on peut utiliser impunément les médias, alors que ça implique en fait de répondre à leurs critères et à leurs attentes. On ne peut pas s'en saisir impunément, et ça implique de se contraindre à ce qu'ils attendent de nous, et d'avoir un discours qui soit forcément allégé ou plus light par rapport à ce qu'on défend. Et en gros, on s'autocensure pour faire du bruit médiatique, alors que ce que tu dis aussi, c'est qu'en fait, ce bruit ne sert pas forcément notre cause, ou ne sera pas entendu, ou ne peut pas être utile, ou simplement ne répond pas en fait aux objectifs qu'on attend de lui.
Ouais, du coup, ça me permet de, en t'écoutant, je réalisais aussi que j'avais pas complètement répondu à la question d'avant, mais ça rejoint un peu celle-là, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut se servir de la science ou des médias pour défendre une lutte, et si oui, comment ? Je pense que, par exemple, les batailles de l'expertise, elles sont quand même. Elles peuvent être importantes. Je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de. Enfin, mon point de vue, c'est qu'il faut être sur tous les fronts, tout en étant réflexif sur chacun de ces fronts-là, de voir comment ils peuvent s'articuler, de voir jusqu'où on est prêt à faire des compromis et jusqu'où on est prêt à composer. Et donc constamment s'interroger sur ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait, avec quelle finalité stratégique, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, l'expertise, je pense que oui, il faut aussi mener la bataille de l'expertise. Enfin, peut-être qu'il faut mener de la bataille de l'expertise, mais quels moyens on engage, et ces moyens qu'on engage en termes de temps, d'argent, de nombre de personnes qui vont faire la contre-expertise, est-ce qu'il serait pas plus utile ailleurs? Si la réponse est non, ok, qu'il continue. Voilà. Parce que la bataille politique, c'est aussi une bataille pour le droit. Enfin, c'est une bataille juridique. On parle pas du droit, mais le droit, c'est comme la science. Ça se présente comme neutre, indépendant, objectif, mais c'est plein de politique. Sur la zone, on le voit bien, quoi. On voit bien que le droit est politique.
Tout est politique.
Du coup, il faut mener les batailles un peu partout. Et aussi au niveau de l'expertise. Je pense que c'est important. Et que s'il n'y avait pas eu des batailles. Enfin, je pense que le travail, par exemple, des naturalistes en lutte, il a quand même. Il me semble qu'il a un rôle politique important, et c'est une forme d'expertise, quoi. Donc il ne faut pas, jeter le bébé à l'eau du bain, mais il faut être prudent. Et pour les médias, du coup, c'est effectivement un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je pense, faire l'impasse totalement sur on a besoin d'un peu d'être légitime et d'une forme de soutien, mais effectivement pas à n'importe quelle condition, parce que sinon le soutien peut se retourner aussi contre la lutte, quoi, à un moment donné. C'est-à-dire qu'il faut être clair sur les conditions du soutien. et quels sont les points de discussion, les points un peu limites. Voilà, c'est-à-dire que, et effectivement, de toute façon, ne pas trop attendre des médias dominants. Bon, ça, je pense que ça, c'est clair. Ils sont pas dans le même camp que ceux qui luttent. Voilà. Donc, faire ses propres médias, certainement. Malgré tout, s'il y a des petites interstices dans ces médias dominants où on peut essayer de faire entendre un son de cloche un peu plus radical et dominant, pourquoi pas? Mais ça doit, le truc, c'est que ça doit pas être une finalité première, à mon avis. Et en même temps, ne pas le faire serait peut-être dommage aussi. Parce que on y reviendra, mais je pense que par exemple, mais en fait, je crois qu'avant de vouloir aller défendre des luttes sur le plateau de TF1, il faut peut-être commencer par raviver aussi les forces des luttes, et du coup peut-être aller d'abord dans les médias populaires. Enfin, moi, je pense qu'il est plus utile d'aller sur RMC, sur TF1, quoi, parce que RMC, bah, c'est au moins un média qui est écouté par des dominés, quoi. Donc si on peut, voilà, c'est aussi à qui on s'adresse derrière. Je pense que c'est des questions qui ne sont pas simples et qui sont souvent éludées un peu trop rapidement. Quoi. Voilà.
C'est drôle, on est sur Radio Klaxon, qui est du coup une radio qui existe pour niquer une de ces grandes radios. On pourrait aussi choisir d'aller parler sur les ondes de Vinci quand l'occasion se présente, le petit journal qui appelle, les numéros de com de la ZAD, etc. On pourrait répondre à ce genre d'invitation en fait, pour essayer de porter des discours. J'ai l'impression qu'un choix qui est largement fait ici, c'est de se dire, mais même si on y va en se disant ça va pas nous prendre trop d'énergie, même si on y va en triant notre langage, en triant nos fringues et en y mettant le plus de bon cœur qu'on pourra, en fait, c'est, comme tu disais, c'est pas leur but, on n'est pas du même côté de la barricade, on lutte pas dans la même logique, et du coup il y a aucun intérêt pour eux à, je dis eux mais j'entends les médias de façon générale, il y a aucun intérêt à aller perpétrer, c'est pas le bon mot, mais voilà, diffuser notre discours, en fait. Par exemple, moi, s'ils diffusent mon discours à plein de moments, c'est encore une fois, je suis toujours mon exemple personnel parce que je connais pas le discours de la ZAD, il y en a pas, mais eh ben, ça va leur mettre une balle dans la tête, donc, ou au moins une dans le pied, donc c'est pas du tout intéressant de le faire. Du coup, par plein de petits biais, ils vont le lisser, ils vont le couper, ils vont le mettre en relation avec justement d'autres experts. Donc d'un coup, tu vas perdre de la crédibilité parce que tu es mis avec en face d'un expert, etc. Bah, ils sont très doués là-dedans. Et du coup, j'ai l'impression que... Enfin, moi, je me demande vraiment si, pour ce qui est de l'écologie, en tout cas, puisque ici, quand même, c'est un enjeu, si on peut aller porter des discours qui soient que critiques, qui ne se veulent pas réformistes, qui veulent vraiment, entre guillemets, on va tout péter, on va tout changer, dans les médias. Voilà, la télé, la radio, les trucs comme ça, autres que les pirates.
Non, mais t'as répondu à ta question, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que ils maîtrisent, c'est eux qui vont maîtriser le sens final du propos qui sera porté. C'est-à-dire qu'ils vont lui donner un sens. Ouais, et puis ils vont surtout, tout à fait pouvoir le retourner. Je montre par exemple comment ils vont folkloriser ce discours-là. Et c'est un discours, c'est sympathique. Hein. Bon, bah, le jour il redonne son anxiété. Voilà. Non, mais c'est le cliché du baba cool, quoi. Voilà, c'est le cliché, c'est les stéréotypes, quoi, qui sont entretenus du retour à l'âge de pierre, à la bougie, etc. Enfin, il faut être sérieux. À un moment, il faut être sérieux, quoi. Bon. Moi, ce que j'essaye de montrer dans mon travail, c'est que ceux qui ne sont pas sérieux, c'est eux. Parce que prendre l'environnement au sérieux, c'est pourtant... voilà. Et, bon. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est vain. Enfin, voilà, sur le long terme, c'est vain. Et c'est là aussi, peut-être... On a l'illusion qu'à court terme, ça va faire du bruit, donc ça va ramener du monde. Peut-être que ça va le faire pendant 3 jours. Mais sur 3 mois, c'est vain. Parce que ce discours-là, vous avez vu, et on va ressortir le propos, si tu vas chez Opti Journal, on va ressortir ton propos, vous avez vu, voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils pensent. C'est pas ce que vous voulez quand même, messieurs, dames. Enfin, voilà. Et surtout, moi, je pense que par contre, il y a tout un travail à faire, et qui relève de la communication, qui relève des médias, pour essayer de faire comprendre à des gens qui sont militants, donc qui, pour le coup, sont quand même plutôt allergiques aux médias dominants, mais notamment des militants écolos, qui, en fait, si on revient sur la question de la lutte ici sur la ZAD, moi, je pense que... Enfin, ce que je m'aperçois, en fait, c'est que, y compris dans les milieux écolos, il y a plein de gens qui, en fait, se font contaminer par le discours dominant. Et je pense que, eux, quand même, on peut les rattraper. Et il faut les rattraper, parce que sinon, c'est grave, quoi. Donc, les milieux écolos, mais... Et plus encore, je crois, les milieux les plus dominés, c'est-à-dire les milieux ouvriers, les milieux des quartiers. C'est là qu'il faut aller parler des luttes radicales, ZAD ou autres. Et je crois que ce travail, c'est un travail militant qui se fait et qui, là, il y a du sens à utiliser les médias, c'est-à-dire faire des interceptions entre les luttes, faire converger les colères. Bon, voilà, mais ça, c'est, je dis ça, là, c'est de la tarte à la crème militante. Mais en même temps, à la fois tarte à la crème militante, mais en même temps, cette tarte à la crème, elle n'est pas goûtée par beaucoup de gens. Quoi, et je pense qu'il faut qu'il y ait. Moi, je suis assez sidéré quand je vais présenter mes travaux, mon histoire, etc., souvent devant des militants écolo, que vient la question, par exemple, de Notre-Dame-des-Landes. En fait, les gens, ils connaissent pas tant de ça, quoi. Ils disent, oui, mais quand même, l'état de droit. Ouais. Bah, donc là, je leur dis, l'état de droite ? Non, l'état de droit. Oui, bah, donc l'état de droite. Parce que le droit, aujourd'hui, c'est un droit de droite, quoi. Donc, et en fait, ah oui, effectivement. Ouais, mais il faut, du coup, en fait, je me rends compte qu'il y a quand même un petit taf à faire là-dessus, quoi. Voilà.
Est-ce que pour terminer cet épisode sur la science, tu pourrais nous parler des sciences ? On a parlé des scientifiques fous, biologistes, environnement et autres. Parler des sciences qui nous semblent a priori plus amies, en fait, plus proches, que sont les sciences sociales, qu'on a tendance à voir, en tout cas aux premières interactions, comme étant des sciences qui sont plus proches de nous.
Bah, ça dépend lequel, ouais, c'est comme tout, quoi. Il y a des chercheurs en sciences sociales qui sont complètement imprégnés d'idéologies dominantes et qui n'imaginent pas qu'on puisse changer vraiment les choses, qui vont faire parfois des travaux de bonne qualité d'ailleurs, mais sur des objets, enfin sur des questions en fait sans intérêt politique, c'est-à-dire du coup intéressantes politiquement pour ceux qui dominent et qui ont intérêt à ce que rien ne bouge. Voilà. Et après il y a quand même des chercheurs en sciences sociales qui, à mon avis, peuvent aussi nourrir les luttes et qui essayent de s'y impliquer, mais qui publient d'ailleurs dans des endroits un peu différents, soit des revues différentes, et surtout des chercheurs en sciences sociales qui assument les conséquences politiques de leurs travaux, quoi. Et en fait, c'est vrai que j'ai l'impression que malheureusement, c'est pas la majorité, quoi. Moi, quand je fais le compte autour de moi, ça fait maintenant 13 ans que je fais de la socio, 6 ans que je suis en poste, c'est-à-dire de chercher en sciences sociales avec fonctionnaire, quoi, on va dire. Quand je fais le compte autour de moi, il y a quelques dizaines, mais voilà, c'est pas beaucoup, quoi. Et puis en fait, surtout, ce que je m'aperçois, c'est que mon travail, il a été plutôt bien reçu. Voilà, ça a marché. Je me demande si ça a marché. Oui, ça a marché. Mais dans les milieux de sociaux, certains sont heurtés par le fait que je tire les conséquences politiques dans le livre de mes travaux scientifiques. Sauf que moi, je leur dis, moi, j'ai publié une dizaine d'articles dans des revues où là, il n'y avait pas de politique. Bon, maintenant, si je fais un livre, c'est aussi pour. Ça sert un peu, quoi. On ne fait pas de la science pour faire de la science. Voilà. On fait aussi de la science parce que derrière, on a une motivation politique, quoi. Que ce soit pour conserver ou pour transformer. Mais...
Ok. Est-ce que vous avez l'impression qu'on arrive au bout de tous ces petits trucs ?
Gentiment.
Est-ce que vous voulez faire un petit résumé ou ça va être trop galère peut-être ?
Petit résumé, je sais pas. Ça me paraît compliqué, mais...
On peut renvoyer aux épisodes précédents.
Renvoyer aux épisodes précédents et puis annoncer le suivant qui arrivera dans quelques semaines, peut-être, pas tout de suite, mais qui va arriver sur le mouvement écologiste, qui sera peut-être aussi des propositions sur ce que je peux observer depuis quelques années, et en revenir un peu sur l'histoire de ce mouvement. Et ça, je pense que ça peut être intéressant. Cet épisode n'était peut-être pas le plus simple et le plus sexy, mais en même temps important, je pense. Voilà, pour comprendre quand même et surtout que chacun se sente autorisé à dire non aux discours scientifiques, mais à certains discours scientifiques, parce que aussi c'est bien, enfin je pense que quand même la connaissance libère, le savoir c'est quand même un pouvoir, mais après de quelle connaissance on parle, quoi. Il y a des connaissances qui peut-être libèrent plus que d'autres.
Principe de précaution et de méfiance pour tout le monde.
Ok, alors du coup, voilà, c'était une émission proposée sur Radio Klaxon qui sera rediffusée. Voilà, donc si vous n'avez rien compris à l'émission, vous n'êtes pas stupide, mais je peux essayer de faire un résumé. En gros, c'est que les experts ou les scientifiques, c'est pas forcément des tocards, mais en tout cas, ils diront tout pour que ça change pas le système. Alors, tout ce qu'ils disent, c'est que c'est pour que... Bon, peut-être on fasse quelques amendements, de modifications, mais ça sera jamais pour qu'il y ait des gros changements. Du coup, forcément, là-dedans, il y a de la daubasse et forcément, c'est orienté, quoi. Voilà, moi, c'est ça que j'ai compris.
Avec Radio Klaxon, ça débétonne.
Si vous cherchez la vérité, si vous ne savez pas quoi faire, si vous avez des doutes, des questions, rejoignez-nous à Radio Klaxon au 07 53 38 06 70.